je suis un petit peu trop perfectionniste, ça oui. Ouais, ouais. Il me faut toujours le meilleur, sinon rien du tout. Si c'est trop limite, je veux dire, laisse tomber. Mais là, si t'entends, tiens, je veux dire, là, je le sens bien, là, tu vois. J'ai l'impression que ça se passe pas mal, non ?
Libre Radio, les vrais grands entretiens. Bienvenue à toi, chère auditrice, chère auditeur. Nous sommes La Comète à la Banane, libradio.org, et nous sommes aujourd'hui en direct de la salle Omnisport de Vailly. Ça se trouve à Bernay, exactement à l'adresse suivante, le chemin du Saulge 120. Pourquoi sommes-nous là aujourd'hui ? D'abord parce qu'on avait envie, et puis ensuite parce qu'aujourd'hui, il y a la journée de Ligue Nationale A et de Ligue Nationale B de Kinball. Et c'est assez rare pour qu'on le souligne. Alors nous sommes justement en présence de Greg. Bonjour à toi, bienvenue Greg.
Bonjour.
Merci de nous recevoir.
Merci à vous.
Bah, avec beaucoup de plaisir. Alors Greg, tu es le président du Kinball Genève.
Absolument.
Ancien joueur par ailleurs de l'équipe de Suisse de Kinball. Et alors voilà, on vient d'assister à un incident très rare. Tu nous l'as dit tout à l'heure, une des balles, un ballon a crevé.
Oui, effectivement, c'est un fait de jeu assez rare. Hein. J'ai dû en voir deux ou trois dans ma carrière de kinballer. Ça peut arriver lorsque la balle vient frapper. Et là, en l'occurrence, c'était le bout de la table, en fait.
Hein. Ah, c'est ça, ou au bout des points.
Ouais. Effectivement, et là, okay. Ça peut...
C'est pas un sabotage, ou c'est pas... Voilà. Non. Parce qu'effectivement, nous allons doucement aller... Non, je dis ça parce qu'on en a parlé tout à l'heure et on va présenter le sport plus en avant. Mais c'est un sport... qui se singularise notamment, pas comme, mais notamment par vraiment l'attitude sportive, fair play des joueurs. Ça, c'est vraiment une des choses qui sont mises en avant.
C'est une des valeurs propres de ce sport.
Alors, on va revenir là-dessus, bien entendu, mais peut-être qu'on va commencer par les fondamentaux, parce que pour nos auditrices et auditeurs, il se peut qu'il y en ait qui ne connaissent pas le pinball, puisque c'est encore un sport, disons, émergent, on peut dire ça.
Complètement, oui. Ouais.
Donc, c'est un sport qui nous vient du Québec. Exactement. Développé par la compagnie Omnikin en 1987, et là je me fie à la page Wikipédia de Kinball, mais maintenant je me tourne vers toi. Alors raconte-nous, voilà, comment le Kinball est né à Genève.
Alors à Genève, c'est tout récent, hein. Le club de Kinball a été créé l'été passé, grâce à Johan Gurry notamment, qui joue actuellement avec l'équipe suisse et qui jouait avec le club de Neuchâtel. Il a déménagé sur Genève et il avait envie de relancer, en fait, de lancer même ce sport à Genève. Il m'a contacté. Moi, c'est vrai que j'avais joué il y a quelques années et puis j'avais arrêté après mes études quand je suis revenu sur Genève. Donc, il m'a proposé de lancer quelque chose.
Voilà, c'est comme ça que c'est né.
Voilà, exactement. Okay.
Alors maintenant, nous allons tenter de décrire ce qu'est le Kinball. Alors, à toi la parole, parce que moi, tu vois, je vais m'arrêter vite. Hein. Je vais m'arrêter aux phrases de Wikipédia, c'est pas très sexy.
Non.
Alors, dis-nous en plus.
Alors, pour essayer de faire simple, on a, et c'est déjà assez original, on a trois équipes qui s'affrontent en même temps sur un terrain. Terrain qui est finalement un carré de 20 mètres sur 20 mètres. Mm-hmm. Ça me permet de définir les limites du terrain. Trois équipes de quatre joueurs qui s'affrontent. C'est assez particulier pour le signaler. Il y a très peu de sports où on a peut-être même aucun à ma connaissance où on a trois équipes qui s'affrontent en même temps sur un terrain. Donc trois équipes de quatre joueurs, comme je vous l'ai dit. Ce sport se joue aussi avec une balle un peu particulière. Hein. C'est une balle qui a un diamètre d'un mètre, 1m20.
Et qui est légère. Hein. Donc,
très légère,
elle pèse
à peine plus d'un kilo. Alors l'objectif, en fait, c'est de frapper la balle. Hein. Une équipe va frapper la balle et une des deux autres équipes devra rattraper la balle avant qu'elle touche le sol. Voilà, ça c'est les règles un peu de base. Un autre point important, c'est que les quatre joueurs doivent toucher au ballon au moment de la frappe. Donc ça permet en fait d'impliquer en fait tous les joueurs d'une équipe. Hein. Mm-hmm. Puisqu'on ne peut pas en laisser certains de côté et puis jouer qu'avec certaines individualités. Tout le monde est incorporé dans le jeu et tout le monde a un rôle particulier. Est important à jouer dans le jeu.
Et alors, il y a plusieurs manches.
Exactement. Il y a sept périodes, en fait. Mm-hmm. Enfin, on peut aller jusqu'à sept périodes. La victoire, en fait, c'est finalement la première équipe qui arrive, qui gagne trois périodes, a gagné le match.
D'accord. À quel... Pardon.
Non,
je t'en prie. À quel moment, donc, parce que j'ai bien compris, donc le début du jeu se fait à trois, et à un moment donné, une équipe quitte le terrain.
Exactement. Alors, l'équipe qui quitte le terrain, en fait, tout simplement, on joue sur un système de points. La première équipe, alors quand on arrive à 11 points, on va stopper le jeu et on va retirer finalement l'équipe qui est le plus en retrait. Et on va garder les deux meilleures équipes, entre guillemets, qui vont s'affronter ensuite sur une manche de prolongation jusqu'à 13 points. Donc on garde les points, hein, c'est figé. Et la première équipe qui arrive à 13, ensuite, remporte la période.
Hein. Remporte la période.
Ouais, la période, oui.
D'accord. Et il y en a 7 de ces périodes.
Alors ça peut aller jusqu'à 7 périodes, effectivement. Si chaque équipe remporte 2 périodes, voilà. On peut aller jusqu'à 7 périodes.
Ok, ça veut dire qu'en termes de durée, une partie, disons, en gros, la plus courte et la plus longue, quel ordre d'idée ?
Je dirais la plus courte, ça peut jouer en 20-30 minutes, hein, okay. Et ça peut aller jusqu'à 2 heures de jeu. Même,
jusqu'à 2 heures
même
de
un
jeu.
Un peu plus, ouais. On a vu tout à l'heure, ce matin, il y a un match qui allait en cette période qui a duré 1h45 à peu près.
D'accord. Et alors, quels sont, selon toi, j'imagine que tu vas me répondre que c'est un petit peu tous, mais quelles sont, selon toi, les compétences les majeures qui sont développées au travers de ce jeu-là? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, il y a un point tactique qui se fait sur le moment, avant le lancement du ballon, la mise en jeu du ballon. Il y a également des glissades, hein, les joueurs font preuve de souplesse, mais également, on l'a dit, de tactique, d'astuce, de force physique, parce qu'il faut quand même frapper dans ce ballon qui part à toute vitesse. Alors voilà, la rapidité, selon toi, quels sont les...
Le profil idéal qu'il faut
avoir. Exactement, ouais.
Moi, je me souviens de l'époque où je jouais à Neuchâtel, on avait beaucoup d'anciens footballeurs ou volleyeurs qui venaient jouer. Il y a des compétences un peu de ces différents sports qui peuvent être utiles dans le kinball, notamment, tu l'as évoqué tout à l'heure, les glissades. Hein.
Mm-hmm.
Alors, il y a un mouvement que les footballeurs connaissent.
Le tackle.
Exactement.
D'accord.
Qui permet de sauver des situations en défense.
On appelle d'ailleurs ça aussi le tackle au kinball ?
Non, glissade. On parle de glissade.
On parle de glissade.
Il n'y a pas de tackle puisque il n'y a pas de contact avec l'adversaire.
Absolument.
Non, c'est uniquement des glissades pour permettre de récupérer la balle.
Ouais. Ok. Et
voilà.
Alors,
mais
donc il y a ce côté-là. Donc il faut être déjà avoir une très bonne coordination, un sens comme ça de. Du
alors,
rythme,
ça se travaille. Manière, hein,
ça se travaille, oui, j'imagine. Et puis, il y a ce côté rapidité. Il faut réagir immédiatement parce qu'on a vu que lors de la mise en jeu, on feinte. Deux ou trois joueurs peuvent être prêts au lancement du ballon et on ne sait justement jusqu'au dernier moment pas où est-ce que le ballon va partir à toute vitesse pour s'y glisser. Se glisser dessous pour évidemment l'empêcher de toucher le sol.
Oui, oui.
Ça veut dire qu'il faut vraiment être très attentif à ce moment-là et très réactif.
Il faut une capacité d'observation, de déterminer. Qui peut potentiellement frapper la balle, puisque les 4 joueurs finalement au ballon peuvent potentiellement frapper la balle, donc ça peut partir à 360 degrés.
Ouais.
Donc il faut être assez alerte effectivement, et ensuite réagir très vite lors de la frappe pour récupérer simplement la balle.
Absolument.
Qui peut partir jusqu'à 70-80 km/h pour les plus gros frappeurs.
Ouais. Alors tu l'as dit, pas de contact physique a priori,
non,
sauf erreur.
Voilà. Contact c'est complètement
rarissime, involontaire. Là, depuis qu'on est arrivé, il ne s'est rien passé.
Non,
il n'y a pas eu. Même...
Alors, on a eu un petit accident ce matin. Deux joueurs se sont frappés dessus, de la même équipe. Hein. Ça peut arriver lorsqu'il y a une mauvaise entente sur qui c'est qui frappe la balle. C'est des choses qui peuvent arriver. Heureusement, c'est assez rare, mais ça peut être parfois assez violent lorsque deux joueurs frappent.
Parce que justement, j'allais te demander quelles sont les blessures, si d'aventure il y en a, les plus fréquentes. Parce que moi, je me dirais, c'est la tendinite à l'épaule, parce qu'à force, parce qu'on donne quand même des coups comme ça sur la balle.
Alors, je me souviens que j'avais eu plusieurs blessures effectivement à l'épaule liées à la répétition des frappes.
Mm-hmm.
Effectivement. Alors, on peut frapper aussi bien à une main qu'à deux mains. Et en frappant à deux mains, on limite un peu ces dégâts sur l'épaule. Une autre blessure qui est assez, heureusement, pas trop courante, c'est au niveau du coude.
Uh-huh.
Au moment de la frappe, moi je me souviens d'un joueur allemand qui s'était retourné le coude lors d'un championnat du monde sur une frappe. C'est des choses qui peuvent arriver, heureusement c'est assez rare, mais toujours possible. Alors
ouais.
En frappant à deux mains, on évite ce genre de blessure. Mais
évidemment. Alors nous, on est en train d'assister justement à un match. Alors le match auquel on assiste, c'est Yverdon 3 contre les Panthères du Nord-Vaudois. Non, pardon, non, je me trompe. Yverdon 2 contre Bienne.
Voilà.
J'étais au match d'après. Mais c'est ce qu'on allait faire de toute façon, c'est égrener le programme. Et la Chaux-de-Fonds, finalement, on l'a appris par une supportrice que la Chaux-de-Fonds n'avait pas pu faire le voyage au bout du compte. Dommage.
Oui, dommage.
Ouais. Bon, voilà. Mais donc, ça veut dire que là, les deux équipes qui s'affrontent commencent directement. Enfin, est-ce que ça va influer sur le nombre de manches ou pas ?
Non, simplement ça. On va garder le même déroulement de jeu. Hein. Simplement, la première équipe qui remportera 3 périodes
voilà.
Gagne le jeu.
Gagne le jeu.
Voilà.
Alors là, c'est Hiver.
Alors ils s'affrontent en duel, hein, ouais. Forcément, puisque la chaude fond n'est pas présent cet après-midi.
Et quand les mises en jeu, alors ça c'est une mise en jeu de manche.
Oui.
Elle se fait au centre du terrain.
Exactement. Tous les départs de période, hein, ou même en prolongation lorsqu'on joue à deux équipes, on part du centre du terrain.
Ok. Mais une fois que le match commence, oui. Eh bien. Où se font les mises en jeu? Au lieu où la balle a tombé, a touché le sol?
Effectivement, oui.
D'accord.
Au lieu d'impact, en fait, où le point est marqué, où la faute est sifflée, lorsqu'il y a faute, on part depuis cet endroit-là.
Ouais. Ça veut dire que justement, de nouveau, hein, c'est pour, comme on fait de la radio, il faut qu'on décrive aussi un petit peu visuellement. Tu l'as dit tout à l'heure, le terrain fait donc à peu près 20 mètres.
21 mètres sur 21 à peu près. Et c'est un carré.
Et il n'a pas de but.
Non, il n'y a pas de but.
Voilà. Puisque le but
pas
de la
but,
manœuvre,
pas de filet,
c'est que voilà, n'importe où, voilà, pas de filet non
pas
plus.
Pas de terrain, voilà. Pas de zone prédéfinie.
Et alors, il me semble qu'il y a aussi quelque chose qui, pour les tenants des sports un petit peu plus, un petit peu moins fair-play, un petit peu plus compétiteurs comme ça, une des singularités également, c'est qu'il me semble qu'il n'y a pas d'arbitre. Ou il y a quand même un arbitre qui compte les points.
Alors non, il y a deux arbitres sur le terrain.
C'est ceux en jaune.
Exactement.
Voilà.
Alors, il y a toujours un arbitre principal et un arbitre assistant.
D'accord.
Donc, ça, c'est dans le cadre du championnat suisse. Au niveau international, on a aussi des arbitres de ligne qui sont sur les bords de terrain pour voir si la balle est out ou pas.
Ah, donc il y a des touches.
Enfin, non, simplement, lorsqu'une balle est frappée, hein, ça se peut qu'elle tombe très, très proche de la ligne ou pas. Et donc, des fois, c'est ça qui permet de définir s'il y a point ou si la balle est out.
D'accord. Donc là, on voit que les...
Un peu comme au tennis, finalement, des juges de ligne.
Voilà, exactement. Là, on observe que les joueuses et les joueurs qui sont sur le terrain donc doivent effectivement toucher le ballon avant qu'il ne touche le sol pour le récupérer. Et on le fait avec à peu près n'importe quelle partie du corps.
Exactement. En défensive, on peut récupérer la balle avec toutes les zones du corps qu'on veut. Pieds, mains, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de contrainte à ce niveau-là.
D'accord.
Au niveau défensif.
Mais que se passe-t-il si le ballon n'est que partiellement rattrapé, c'est-à-dire qu'il touche une partie du corps, mais juste après il touche le sol?
Alors ça, c'est point marqué pour l'équipe qui...
Oui, oui. Donc il faut vraiment que la balle soit remise en jeu.
À tout moment, il faut éviter qu'elle touche le sol. À partir du moment où elle touche le sol, le jeu est stoppé.
D'accord. Bon, écoute... Qui avons-nous sur le terrain? On a dit Yverdon 2 contre Bienne.
On a Bienne, effectivement. Yverdon, voilà.
Donc là, c'est la partie... parce que là, on va égrener un petit peu le programme et avant ça, on va faire une petite pause. Mais c'est la LNB
exactement.
À laquelle on assiste actuellement. Exactement. Qui sont les équipes favorites de ce tournoi de LNB? Qui sont les équipes qui sont, a priori, qui pourraient grimper en LN1?
Je dirais Bienne, sur le terrain, est pas mal. Il y a pas mal d'expérience dans l'équipe, des joueuses qui jouent actuellement avec l'équipe suisse. Je pense notamment à la capitaine Nadia qui a disputé différents tournois internationaux avec l'équipe suisse. Donc je pense qu'à ce niveau-là, c'est l'expérience peut faire la différence.
Donc, selon toi, Bienne parmi les favoris.
Voilà, et peut-être... alors je connais pas bien l'équipe d'Yverdon qui est actuellement sur le terrain, mais...
Ok.
Voilà.
Alors,
ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est pas mal aussi.
Et puis alors justement, ça nous permet d'égrener le programme et puis juste après de parler un petit peu de l'équipe de Genève.
Oui.
Alors, le match d'après, ce sera Yverdon 3, les Panthères du Nord-Vaudois, Yverdon 2, donc simultanément sur le terrain.
Bien sûr.
Voilà. Mm-hmm. Et nous terminerons par Genève.
Exactement. On dispute le dernier match de cette journée de championnat.
Le match de clôture.
Voilà.
Oui. Contre ou avec le Loc, le B et puis Neuchâtel 3.
Oui, contre ou avec.
Alors dis-moi, comment est-ce que tu te projettes dans ce match? Genève, le Loc, Neuchâtel, là-dedans, qui est le favori selon toi? Est-ce que Genève a ses chances?
Oui. On a clairement nos chances. Maintenant, on accueille une nouvelle joueuse dans l'équipe qui va disputer son premier match de championnat aujourd'hui. Donc on va voir aussi comment elle sera capable de gérer aussi un peu les émotions et surtout un peu le stress lié à la première journée de championnat. Mais je suis confiant que ça se passe bien. On a travaillé assez dur à l'entraînement cette semaine pour que ça se passe bien. Donc on espère pouvoir surprendre avec les stratégies qu'on a développées à l'entraînement.
Très bien, très bien, très bien.
Voilà.
De tout cela et d'autres choses encore, nous parlerons après une petite pause musicale. Je vais juste rappeler pour nos auditrices et auditeurs que la journée a cours jusqu'à 18h, 19h peut-être.
Oui, alors on a pris un petit peu de retard sur le planning, mais je pense 18-19, ça devrait
être. Donc les personnes sont encore bien entendu les bienvenues ici à la salle Omnisport de Vailly. C'est à Bernès, c'est précisément au chemin du Saulge 120. Qu'est-ce qu'il y a comme bus dans les parages? Tu saurais me dire?
Pas du tout, je suis venu en voiture ce matin.
Ouais, ouais, c'est un peu... Le tram peut-être, Camille, tu sais quelque chose toi? Mais voilà, c'est en tout cas...
Le tram 14 va jusqu'à Bernay, après pour venir jusqu'ici, je sais pas du tout.
Ouais, il faut marcher un petit peu, voilà. Mais en tout cas, l'adresse est la suivante, chemin du Saulge 120, c'est à Bernay. Salle Omnisport de Vailly. Nous, on interrompt un petit peu cette émission. Nous allons faire une petite pause musicale avec quelques petites chansons, dont celle qui suit tout de suite, qui s'appelle Boom Bat. C'est Bass Face. C'est de la trap music. On y va. Et puis pour les auditrices et auditeurs, si tu souhaites interroger nos invités, eh bien tu le fais via l'adresse suivante info@libradio.org, ou alors via la page Facebook de l'émission. Tu te logs dans Facebook, tu notes La Comète à la Banane. Nous sommes derrière nos écrans et nous sommes en compagnie de Greg pendant un petit moment encore. Et puis ensuite, nous aurons quelques joueuses et joueurs des différentes équipes qui viendront. C'est parti avec la musique. We'll be right back.
radio, la radio qui bombe le torse, qui dresse l'antenne et qui émet les phéromones. www.libradio.org.
Nous sommes réunis ici à la salle Omnisport de Vailly. Je le rappelle, chemin du Saulx 120 pour la journée de Ligue B et Ligue A du championnat de Suisse de Kinball, sur lequel nous allons revenir. Alors ça, c'est un cri de guerre.
Absolument.
C'est
ouais. Pour se motiver.
Juste
pour se motiver,
comme ça. Voilà, pour ça peut arriver à tout moment.
Non. C'est uniquement début de période. Ça peut arriver aussi sur le terrain en cours de jeu lorsqu'une équipe marque un point et on...
Ouais, on se motive.
Voilà, on veut se faire. Ouais, voilà.
Excellent, cool. Alors justement, comme nous, avant de passer stricto sensu à la partie sur vraiment l'équipe de Genève, eh bien, nous avions encore quelques questions. Parce que c'est vrai qu'on avait abordé ce sport, et ça me permet de les citer et de les remercier eux aussi. Tu as déjà cité Johan, qui est donc le vice-président du Kinball Club Genève.
Absolument.
Ancien joueur. Non, lui, il est encore joueur de l'équipe.
Il joue toujours.
Il joue toujours, tout à fait. Et puis,
dans les sélections pour les prochains championnats du monde qui vont se dérouler au Japon. En 2017, cette année en fait, au mois de septembre.
Où lui se rendra?
Alors oui, normalement il devrait se rendre. J'ai pas la sélection finale, mais en tout cas il est dans le cadre de l'équipe suisse qui se prépare pour cet événement.
Ah, ce serait bien d'y aller avec la radio pour couvrir le truc. Oui, et puis alors Pauline était venue, qui est elle-même joueuse, était venue nous présenter déjà ce sport à la radio. Alors Camille, toi qui ne, comme moi d'ailleurs, moi un petit peu comme j'ai quand même quelques petites connaissances de base, à peine. Mais toi, il me semble pas du tout. T'avais
rien
pas eu l'occasion.
Tout, rien du tout.
Alors voilà, les questions de base en fait.
Ouais, c'est purement de la théorie en fait. C'est comment est-ce qu'on crée un, enfin comment et surtout pourquoi est-ce qu'on crée un sport aujourd'hui? Ça a été créé au Québec, vous l'avez dit tout à l'heure, selon des valeurs qui sont différentes d'autres sports. Donc est-ce que c'est peut-être des valeurs en fonction du négatif qu'on trouve dans d'autres sports, qu'on a décidé de créer autre chose de différent? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête?
Je pense que c'était un peu l'idée en fait de ce sport. C'est un prof de sport en fait québécois qui a inventé ce jeu à la fin des années 80, et il voulait en fait surtout impliquer tout le monde dans le sport en fait. Je pense qu'il s'est rendu compte que dans certains sports, Surtout en étant enfant, on peut très vite exclure des personnes en fait. Typiquement, si je prends l'exemple du football ou du basketball, on va mettre en avant un peu les individualités et on peut très rapidement, même sans forcément s'en rendre compte, exclure des gens du jeu. Et, à la différence, le Kinball permet vraiment d'impliquer tout le monde dans l'équipe et permet à tout le monde d'avoir un rôle important à jouer dans ce sport.
Merci beaucoup. Et du coup, une question qui suit un peu de celle-ci, c'est comment est-ce que toi, tu t'y es mis du coup, et comment est-ce que les joueurs s'y mettent directement? Parce que je suppose qu'on n'en parle pas partout. C'est pas un sport dans lequel on est dedans. On n'a pas un papa particulièrement fan de Kinball.
Non, pas encore.
Je suppose,
c'est trop récent pour que ce soit le cas. Mais peut-être que d'ici 15-20 ans, ce sera différent et on y viendra. Alors moi, j'ai découvert ce sport en fait quand j'étais étudiant à Neuchâtel. C'était un prof de sport québécois, encore une fois, qui avait québécois d'origine québécoise, qui vit à Neuchâtel, qui a amené ce sport en fait en Suisse. Moi, je l'ai découvert dans le cadre des sports universitaires à Neuchâtel. On m'en avait parlé, et puis je suis allé voir une fois, quelques années. Puis j'ai croché, et je suis jamais quitté le Kinball. Voilà. Donc ça, c'est pour moi. Je sais que dans la région de Neuchâteloise, il y a eu beaucoup de petits reportages à la télé locale, à la radio, dans les journaux, qui ont permis en fait d'amener du monde, d'attirer du monde. Et c'est comme ça que le sport se développe, en tout cas en Suisse romande. Je sais qu'il est aussi pratiqué dans les écoles, au niveau scolaire. Et, d'ailleurs, on a aussi une ligue junior depuis quelques années, championnat junior en fait, ligue nationale junior. De 12 équipes, composées de 12 équipes qui s'affrontent dans le cadre du championnat suisse. Voilà.
Alors, Camille,
Une dernière ?
Bah, bien sûr.
Sur l'ampleur du sport, l'ampleur que ça a pris aujourd'hui, est-ce qu'il y a des fédérations sur tous les continents ? Est-ce que ça se joue partout ? Vous partez au Japon, donc je suppose que déjà ça a pris pas mal d'ampleur.
Oui, bien sûr, il y a une fédération internationale qui gère ce sport au niveau international. Et puis ensuite, on a des fédérations nationales, on en a une en Suisse également. Effectivement, les fédérations dans pas mal de pays. Aujourd'hui, ce sport est pratiqué dans une trentaine de pays à travers le monde, mais c'est en plein développement.
Et alors, on peut dire que pour le moment, le haut du panier, c'est le Canada et le Japon.
Exactement.
C'est ça, hein. C'est les deux équipes. Alors, le Canada, c'est les fondateurs. Comment ça se fait ? Comment est-ce qu'on explique qu'au Japon, c'est pris comme ça ?
C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse, mais... c'est vrai qu'il y a eu un attrait pour ce sport au Japon qui est assez important. Ils ont une fédération qui compte pas mal de clubs et il y a énormément de membres, de joueurs pratiquants en fait au Japon.
Excuse-moi.
Alors, jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais gagné la Coupe du Monde, le championnat du monde qui a toujours été remporté par le Canada, mais ils ne sont pas passés loin il y a quelques années de remporter pour la première fois un championnat du monde. Mais en principe, ils se classent toujours dans les 2-3 meilleures équipes des tournois internationaux.
Ouais. Est-ce qu'il y a des velléités de professionnaliser ce sport-là, typiquement au Canada ou au Japon, ou justement à dessein peut-être pas ?
Non, je pense pas. Non. C'est pas encore un sport de toute manière qui est suffisamment médiatisé pour générer des revenus suffisamment pour pouvoir en vivre.
Ouais. Non, je te posais la question parce que c'est vrai qu'on pourrait faire le calcul aussi de dire, à l'inverse de certains sports dont on a vu, dont on voit le résultat une fois qu'ils sont surprofessionnalisés, pourrait-on dire, peut-être que voilà, on pourrait se dire, moi je fais le pari de rester dans des proportions à hauteur humaine pour justement éviter certaines pressions ensuite et puis toutes les déviances qui peuvent se produire quand des sommes considérables sont impliquées.
Oui, je comprends tout à fait. Mais simplement, je pense que le sport est aujourd'hui encore trop récent pour que ce soit, pour qu'on soit à ce niveau-là. Maintenant, pour avoir vu 2-3 et même participé à 2-3 compétitions internationales, le sport est très très spectaculaire quand il est joué au niveau international. Ça va très très vite, ça frappe très fort. Et j'avais eu l'occasion lors de la Coupe du Monde en Belgique en 2013. Pour la première fois, j'avais vu ce sport à la télé. Les matchs étaient filmés, retransmis, puis on les voyait en fait depuis les différents bars qui étaient présents autour de la salle. Et de le voir à la télé comme ça, c'était très très intéressant. Et je pense que
visuellement, voilà, complètement. Il faut d'ailleurs le dire qu'on trouve des matchs et notamment des matchs également des plus hauts niveaux sur YouTube.
Exactement.
Et c'est vraiment comme toi, j'ai fait l'expérience de regarder ça sur YouTube et c'est particulièrement impressionnant la vitesse, la rapidité. Mais même là, alors que c'est la Ligue B, dis donc, ça va vite.
Oui.
Et puis c'est vraiment c'est pétillant, je veux dire. Ça part un peu dans tous les sens. et puis on voit qu'il y a cet aspect justement tactique, rapide. Alors voilà. Alors, là on peut se faire des passes quand même.
Alors oui, on peut se faire des passes en attaque. On a 10 secondes à partir du moment où on rattrape la balle pour pouvoir poser un jeu et frapper à nouveau.
Et là, de nouveau,
ça laisse le temps d'organiser des jeux.
Ouais.
On peut se faire des passes, on peut déplacer ce qu'on appelle la cellule. La cellule, ce sont les deux personnes qui sont sous la balle et qui tiennent la balle.
Et l'idée, c'est de basculer le...
C'est de chercher, de trouver des opportunités, des trous en fait dans la défense pour pouvoir y placer la balle. Simplement. Donc des fois, il faut effectivement faire bouger ou créer un peu de la vitesse dans le jeu pour que des espaces se créent au sein de la défense.
Ça veut dire qu'à l'entraînement, on prépare des schémas, toute une série de schémas que l'on applique après rapidement.
Complètement. On a des jeux qui sont déjà préétablis. Alors après, on a des signes qu'on peut se faire sur le terrain pour savoir quel jeu on va appliquer. Là, ce qu'on appelle les caucus, c'est quand les joueurs se rassemblent pour discuter avant une mise en jeu de la stratégie à adopter. C'est vrai que si on fait peut-être des signes trop voyants, l'adversaire peut les identifier. Les matchs sont filmés, ce qui permet de déceler un peu, d'essayer de comprendre un peu la stratégie adverse. Donc on va essayer quand même d'être assez discret dans les signes qu'on montre. Mais je sais qu'en équipe de Suisse, ils ont beaucoup de variantes de jeux, ils ont peut-être une vingtaine, trentaine de jeux différents qui sont capables de ressortir à tout moment. Ouais, parce que justement... s'adapter à l'adversaire aussi, au jeu de l'adversaire.
Exactement, oui, parce que tout à l'heure, on faisait un petit peu l'analogie avec le foot et le volley, mais on pourrait presque faire des analogies également avec le foot américain, dans le sens où, tu sais, il y a tous ces schémas que l'on discute un peu.
Exactement, voilà, c'est beaucoup plus stratégique et beaucoup plus subtil dans le jeu que l'est, par exemple, des sports comme le football.
Exactement. Et puis, il y a une vraie... c'est un schéma qui est vraiment... On voit qu'il est... Tous les joueurs, comme tu l'as dit, sont consultés au moment où on parle de ça, au moment de l'action. Enfin, il y a un côté comme ça, directement appliqué d'une stratégie qui a été apprise avant, mais il y a le choix de laquelle nous allons choisir ensemble.
Oui, bien sûr, il faut l'adapter à la situation de jeu, à l'adversaire qu'on affronte aussi, au type de jeu qui est proposé par l'adversaire, puisque tous les jeux ne seront peut-être pas adaptés. Alors, la magnifique action défensive, un joueur qui a rattrapé la balle. Il faut une certaine souplesse dans le jeu aussi.
Là, c'est...
Voilà.
Oh, jeune. Mais alors, dis-moi, comment peut-on expliquer que ce sport ne soit pas plus médiatisé? Parce qu'effectivement, en termes de contenu, en termes visuels, en termes de compétences qui sont là, c'est magnifique.
D'originalité, de l'originalité. Alors, sport,
comment est-ce qu'on peut expliquer que ce soit pas mieux relayé que ça?
Je pense encore une fois, c'est le fait que le sport soit trop récent.
D'accord.
Que finalement, très peu de gens. Ouh là là.
Ah, ça c'est un coup de ballon, c'est ça?
Alors ça c'est une mauvaise compréhension du jeu de l'équipe, et on voit qu'un joueur de l'équipe d'Yverdon a frappé en fait sur son coéquipier. Alors ça c'est des accidents qui peuvent arriver.
Ouais. Mais ils sont rares.
Voilà, comme c'est on l'a dit tout à l'heure. Et puis en principe, alors ça peut.
Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la remise en jeu se refait.
Tout simplement, ils ont fait une faute. Hein.
Ah d'accord, c'est compté comme faute.
Voilà, c'est compté comme manque un contact finalement, puisque la personne qui a reçu la balle ne touchait pas au ballon en fait, parce qu'elle pensait qu'elle allait frapper.
Comment se passe? Parce que j'imagine qu'on est assez vite fatigué. Comment se font les remplacements? Alors, au cours du jeu, comme ça, un joueur peut sortir et...
Là, on peut faire peut-être quelques analogies avec le hockey sur glace. On a des blocs. Hein. En principe, on tourne par bloc. Alors, des fois, ça peut être des duos aussi. On peut travailler en duo, mais généralement, on travaille en bloc de 4. Et puis, on peut changer les blocs. On peut changer individuellement les joueurs à chaque arrêt de jeu. On peut faire des remplacements.
Ok. Alors, écoute, ce que je te propose, c'est que maintenant, on discute en deux secondes de l'organisation de la Fédération de Kinball, et puis ensuite on fera le focus vraiment sur l'équipe de Genève. Mm-hmm. Alors, si j'ai bien compris, aujourd'hui nous sommes ici à l'occasion d'une journée de Ligue A et Ligue B.
Exactement.
Donc c'est-à-dire que la Fédération suisse est organisée en Ligue A, Ligue B, etc.
Exactement.
En plusieurs niveaux.
Alors il y a trois championnats aujourd'hui dans le cadre de la Fédération suisse. On a la Ligue Nationale A, qui est finalement l'élite du Kinball en Suisse. On a la Ligue Nationale B, et puis on a la Ligue Nationale, la Ligue Junior.
Et la Ligue Junior, voilà. D'accord.
Donc la Ligue Nationale A compte aujourd'hui 6 clubs, essentiellement Suisse romande. Mm-hmm. On a Bienne aussi qui fait partie, alors qui joue en Ligue B, pardon. Bienne joue en Ligue B, mais essentiellement Suisse romande. Hein,
d'accord.
Donc ça va être Neuchâtel, Yverdon, Lausanne, Genève qui joue en Ligue B aussi.
Ouais.
Voilà, donc ça c'est pour la Ligue Nationale A, et à côté on a la Ligue Nationale B qui compte 9 équipes aujourd'hui. Et la Ligue Nationale Junior qui compte une douzaine d'équipes.
D'accord. Alors tu as dit que c'était un sport majoritairement roman. Il prend moins en Suisse allemande, ou c'est juste que...
Alors ça commence à prendre en Suisse allemande. On a 2-3 équipes qui sont intéressées pour rejoindre le championnat. Ça va se faire, je pense, d'ici dans les prochaines années.
D'accord. Et il y a des équipes vraiment typiquement à Neuchâtel. C'est là que c'est un petit peu né, si
c'est un peu le berceau, un peu le berceau du kinball en Suisse.
Et là, du coup, l'équipe est un petit peu... Enfin, est-ce qu'il y a une équipe qui surnage comme ça parmi d'autres, ou c'est...
Disons qu'il y a un peu plus d'expérience, disons, dans cette équipe-là, puisque pour y avoir joué quelques années, c'était l'équipe de Neuchâtel finalement était aussi le cadre de l'équipe nationale suisse. Donc il y a beaucoup d'expérience qui s'est accumulée au fil des différents championnats internationaux.
Voilà, j'allais demander s'il y avait des rencontres internationales, ou si au niveau international ça n'est que l'équipe nationale qui a cours. Neuchâtel joue contre Berlin.
Non, il y a une compétition de clubs qui s'est mise en place assez récemment. Mm-hmm. Où des clubs au niveau européen s'affrontent, mais dans le cadre des championnats d'Europe, où on a aussi les équipes nationales qui vont s'affronter.
J'ai compris.
Mais il n'y a pas de... Non, il n'y a pas. Non.
D'accord. Alors dis-moi, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais s'il y a effectivement une contingence à ce sport, c'est qu'il se joue indoor.
Donc, exactement.
Il n'y a pas de version extérieure.
Alors il y a des balles qui existent pour l'extérieur, mais c'est plus loisir, hein, plus pour le fun qu'on va jouer, qu'on peut jouer en extérieur. Mais oui, au niveau compétition, ce sport se joue en intérieur.
Et ça, on l'explique évidemment par le ballon qui pourrait être déporté par un vent.
Ouais, tout à fait.
La pluie et puis les glissades.
Puis les glissades sur sur le goudron
sur pas très sympa, effectivement.
Voilà, peut-être sur l'herbe, ça serait pas mal, mais non. Non.
Ok, ben écoute. Je propose que l'on fasse, si tu as le temps encore, c'est toi qui nous dis, Greg.
Oui,
si tu as encore un petit moment, on fait une petite pause musicale, une chanson, et puis on revient sur vraiment Genève.
Ça marche.
Ça va comme ça ?
Très bien.
Allez, alors on y va. Moi, je le rappelle encore, nous sommes en direct depuis la salle Omnisport de Vailly. C'est au chemin de Saulx 120 à Bernay pour le championnat de Liga et de Ligue B. Actuellement, on suit le championnat de Ligue B de Kinball avec au programme le match que l'on a sous les yeux en ce moment. Donc, c'est Yverdon contre Vienne. Et puis à suivre, Yverdon 3 contre les Panthères du Nord Vaudois et Yverdon 2. Et puis le dernier match, verra sur le terrain de jeu Genève, le Loc B et Neuchâtel 3. On y va avec un petit peu de musique et puis on revient juste derrière.
Vous comprenez, moi dans le fond, ça m'arrange de te déboucher. Parce que de ma nature, je suis plutôt sensible. J'ai jamais fait de mal à une mouche. J'aime bien les Belges, j'ai une passion pour les animaux. Tandis que les bouchers, eux, ils les tuent, les animaux. Alors moi, je tue les bouchers, vous comprenez? Et puis, je leur prends leur argent, aux bouchers. Puisqu'ils tuent les animaux, et que moi je les aime, les animaux. J'ai pas droit mort, vous comprenez? Un peu d'argent, un boucher de temps en temps, un peu de soleil. Un peu d'amour.
www.libradio.org
Voilà, donc, oui, c'est pas très sportif. Hein, comme jingle, je dois dire qu'on a fait mieux à Libre Radio. Alors, merci Greg pour ta patience de rester avec nous tout ce temps pour nous expliquer. Parce que c'est vrai que c'est un sport, comme tu l'as dit récent, puisqu'il a, il est né en 1987, donc c'est très récent pour un sport. Hein.
Oui, oui. Et le... qui est arrivé en Suisse finalement que dans les années 2010. Donc.
Voilà, c'est ça, il a dû traverser en Suisse. Exactement. Kinball, effectivement, là on le découvre, hein, donc développé par la compagnie Omnikin en 1987. Omnikin, ça désigne, ça vient du grec et ça désigne Omni, qui signifie tout, toujours, et Kin, qui veut dire la science de l'homme en mouvement. Et c'est bien cela.
Mouvement permanent.
Ouais. Voilà, un mouvement permanent. Alors, venons-en à la. À l'équipe de Genève, qui est donc en Ligue B actuellement.
Exactement, on a commencé en Ligue B cette année. Hein, c'est notre, finalement, le club a été créé cet été, enfin l'été passé plutôt. Donc c'est notre première année dans le cadre du championnat suisse de Ligue Nationale B. Et, on cherche du monde, hein, on cherche du voilà. monde. On a besoin de joueurs, de joueuses aussi.
Pour le moment.
Puisque le club, enfin, comme tu as pu le voir, hein, c'est la mixité hein, qui prime dans ce sport, en tout cas au niveau suisse. Mmh. Et, garçons-filles mélangés sur le terrain
et impliqués également. Voilà, ça c'est important aussi parce que tu vois là on a aussi ce problème là, c'est que dans certains sports où on essaye d'établir une forme de mixité, eh bien celle-ci est parfois biaisée, c'est-à-dire que justement de nouveau les filles sont moins impliquées ou des trucs comme ça. Là il y a vraiment cette idée que tout le monde soit impliqué.
Exactement, ouais,
équivalente.
Voilà. Ouais. Il faut au minimum une fille ou un garçon en permanence sur le terrain, toutes les phases de jeu. Donc,
Alors, où en êtes-vous ? Pour Genève, le contingent actuel, quel est-il ?
Alors, on a, disons, 5-6 joueurs, hein, c'est très, très limité. Alors, pour les matchs, ça va, puisqu'il faut au minimum 4 joueurs. Maintenant, pour les entraînements, c'est vrai que 5-6 joueurs, des fois un peu plus, on a des joueurs de Lausanne qui sont venus aussi s'entraîner des fois avec nous. Mais on a besoin de monde. Hein. Disons que si on était 12, un contingent de 12, 15, on pourrait faire quelque chose d'intéressant à l'entraînement.
Absolument. Alors voilà, on y va. Quels sont les prérequis, s'il y en a, pour pouvoir rejoindre l'équipe de Kinball de Genève ? Faut-il être physiquement comme ça ? Faut-il être prêt ?
Short, t-shirt, paire de chaussures et une paire de genouillères, et puis on peut y aller,
parti,
on peut commencer.
Super, ouais. Ça c'est génial.
Non, il n'y a pas de prérequis.
Ouais.
Voilà. Non.
Et puis
on accueille tout le monde avec plaisir, tous les gens qui seraient intéressés pour essayer, même une fois.
Exactement. Les entraînements, où ont-ils lieu ?
Alors nous, on s'entraîne tous les lundis soirs, de 20h à 22h, à la salle des sports des Avanchets.
D'accord. Aux Avanchets.
Voilà, l'école des Avanchets, on a la salle là, donc tous les lundis de 20h à 22h. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet, on est présent sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, sous Kinball Genève. On a un site internet aussi. Contactez, vous avez une adresse de contact, tout simplement laissez un message sur le groupe Facebook. Puis on répondra à toutes vos questions.
Et puis voilà, pour les personnes qui hésiteraient un petit peu, peuvent-elles, mais tu l'as déjà répondu, mais on va le répéter, elles peuvent venir assister à un entraînement
tout à fait, avec plaisir, on accueille des gens pour leur présenter le sport. Et, non, bien sûr.
Super. Alors, et la fréquence des rencontres ? Aujourd'hui, nous avons cette journée LNA-LNB, mais sinon, s'il n'y a pas le championnat, est-ce que vous faites des matchs amicaux ou bien c'est tout le temps plutôt les matchs de championnat qui ont cours ?
Non, actuellement, il n'y a que les matchs de championnat, en tout cas à notre niveau, au niveau de Genève, on n'est pas encore dans l'optique d'organiser des matchs amicaux, mais peut-être qu'un jour, si on a plus de monde et on arrive à avoir un contingent assez intéressant, on pourrait s'organiser avec d'autres clubs pour organiser des journées des matchs amicaux finalement.
Ouais.
Mais aujourd'hui, on a une douzaine de journées de championnat. Par année, par saison. Donc on s'affronte.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal,
ouais. Et donc tout cela avec un entraînement hebdomadaire, une fois par semaine.
Pour l'instant, on a un entraînement hebdomadaire, à voir après.
Alors, est-ce qu'on vous a déjà sollicité pour une démonstration ? Ou est-ce que vous-même vous êtes dit, tiens, on pourrait faire ? Parce qu'il me semble que j'avais vu qu'il y avait une journée portes ouvertes.
Dans le cadre du club, oui, on avait fait une journée d'initiation il y a quelques semaines. Il y a 2-3 personnes qui étaient venues. On n'avait peut-être pas. On a peut-être suffisamment communiqué à ce sujet.
Mais on peut lancer l'appel si jamais, si toutefois des personnes aimeraient, parce que c'est des sports à promouvoir, ce type de sport qui justement ont ces singularités là que l'on a parcouru avec toi Greg, justement la mixité,
c'est un sport super fun, super plaisant à pratiquer, passe des bons moments. Il y a une bonne ambiance aussi, l'esprit d'équipe comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, c'est quelque chose de très important, le fair play. Voilà. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'intensité dans la pratique sportive. Hein. Ouais. On transpire à l'entraînement.
Clairement.
Même en match d'ailleurs.
Ouais. Est-ce difficile de trouver des lieux pour pratiquer le kinball, des salles de gym? Parce que voilà, comme on l'a dit, c'est un sport qui se joue à l'intérieur. Il faut quand même une salle de sport.
Ouais, puis c'est pas évident en tout cas dans la région genevoise pour l'instant. On a la chance d'avoir une salle. On a la chance d'avoir eu cette salle d'ailleurs aussi pour cette journée de championnat. D'ailleurs, je remercie Johan Guéry qui a fait beaucoup pour cette salle et puis les autorités communales de la ville de Bernay aussi qui nous mettent cette salle à disposition. Voilà, c'est un sport aussi qui est encore une fois très, très récent. Beaucoup de gens ne connaissent pas forcément finalement ce sport, donc c'est aussi un peu à nous aussi de présenter et de faire découvrir ce sport pour peut-être obtenir des créneaux supplémentaires pour des entraînements ou pour des journées de championnat.
Absolument, ouais, parce que actuellement, avez-vous déjà des partenaires institutionnels, justement, je ne sais pas, moi, avec le département du sport, de la jeunesse et du sport?
Non, aucun. Pas encore, pour le moment. Non.
Bon, bien sûr, comme tu l'as dit, hein, c'est quelque chose qui est c'est un work in progress, il faut que les choses se fassent doucement.
Ça prend du temps aussi.
Voilà, mais c'est vrai que c'est un sport qui mérite qu'on s'y arrête, certainement.
Complètement. Je pense qu'il promeut des valeurs qui sont... Alors, je pense qu'ils sont recherchés par pas mal de monde aussi.
Complètement.
Sportive.
Dis-moi, nous avons cette journée aujourd'hui, et puis ensuite, qu'est-ce qui nous attend en termes d'actualité du kinball?
Alors, dans le cadre du championnat, il reste avant la fin de la saison, il reste 3 journées de championnat. Avant la journée des finales.
Alors voilà, comment ça se passe? Le championnat arrive à son terme.
Voilà.
Il y a un classement, et puis ensuite il y a des playoffs ou non?
Ouais, il y a des finales qui se jouent sur une journée. Cette année, ce sera le 13 mai au Locle. C'est là que se joueront les finales, hein. Bien sûr, en fonction du classement établi lors de la saison, saison régulière. Hein,
et alors, Genève, où en êtes-vous au classement? C'est pas pour cette fois, c'est
non,
pas pour cette année la montée?
On est dans une phase d'apprentissage aussi. Ouais. Il y a beaucoup des joueurs hein, qui jouent aujourd'hui avec nous. Ont découvert le kinball très récemment. Hein. Certains, ça fait à peine plus de 2-3 mois qu'ils y jouent. Donc, c'est pas.
C'est pas grave. Et alors, il reste trois journées auxquelles, là, c'est sûr, vous allez jouer. Donc, comment ça se passe? Une fois à la maison, une fois à l'extérieur?
Voilà, c'est ça. Chaque club organise une journée de championnat. Donc, je l'ai pas en tête la prochaine. Je sais pas, j'ai pas vérifié le calendrier, mais voilà, ça sera Yverdon, Neuchâtel, Lausanne ou Bienne.
Bon, là, de nouveau, on renvoie au site et puis à la page Facebook.
Toutes les informations au site de la Fédération internationale aussi. Où on peut trouver des informations sur l'équipe suisse, sur le championnat, Ligue nationale A, Ligue nationale B, sur les horaires, calendrier des matchs.
Ouais, absolument. Ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Un appel, on lance l'appel absolument. Pour que des gens vous rejoignent, des filles, des garçons. Y a-t-il des limites d'âge ou des âges conseillés?
Alors, on n'a pas aujourd'hui encore d'équipe junior hein, dans le cadre de l'équipe de Genève. Hein, donc, je dirais toutes les personnes à partir de 14-15 ans.
D'accord.
Voilà, il n'y a pas de limite supérieure. Non.
Ouais. Enfin, et puis on a dit, alors comme tu l'as dit, t-shirt, basket, effectivement, les genouillères. Une paire de genouillères, ça c'est comme sympa.
On peut trouver n'importe où. Hein, c'est des paires de genouillères de volleyball finalement.
Hein,
Voilà, c'est juste important de se protéger les genoux lors des glissades pour éviter les brûlures.
Exactement, dû au revêtement évidemment des salles. Hein, Ok, qu'est-ce que j'oublie de te poser comme question? Une question à laquelle tu aurais souhaité répondre et que je n'ai pas posée. Bien sûr que Camille, derrière, hein, tu n'hésites pas. Bah, c'est bien. Alors, tu veux commencer Camille ou on laisse d'abord Greg dire s'il avait une question à laquelle il voulait répondre?
En arrivant ici, je me suis dit, c'est dommage, est-ce que ce sport peut se jouer à l'extérieur?
Ouais, on a parlé tout à l'heure.
Excuse-moi.
Non, mais il n'y a pas de souci. Bah, ça permet à Greg de répondre à nouveau.
Oui, alors, on peut pratiquer ce sport en extérieur, mais plus pour le fun, loisir. Sur une plage ou comme ça, on peut tout à fait le jouer en extérieur. Maintenant, au niveau des compétitions nationales, internationales, c'est uniquement en indoor que se joue ce sport.
Voilà. Une question à laquelle tu aurais souhaité répondre que je ne t'ai pas posée.
Non, comme ça, je vois pas.
Ça vient pas comme ça. C'est très bien. Ça veut dire qu'on a relativement fait le tour.
Ouais, on a fait le tour un peu
après,
du sport.
Après, nous, on reviendra. Hein. Enfin, si vous nous invitez.
Avec plaisir.
Super. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, il nous reste à voir 2 rencontres entières.
Voilà, donc je joue le prochain match d'ailleurs. Il faudrait que.
Voilà.
Jouer avec mon équipe aussi.
Exactement. Donc Yverdon, les Panthères du Nord-Vaudois, Yverdon 3, Yverdon 2 et les Panthères du Nord-Vaudois. Et puis ensuite Genève, le Locle B et Neuchâtel 3.
On clôturera cette journée de championnat. Ouais.
Voilà. Écoute, je te remercie beaucoup.
Merci à toi. Merci d'avoir fait le déplacement.
Avec beaucoup de plaisir.
Et merci nous aider à promouvoir ce sport.
Eh ben, on va essayer en tout cas, ça marche. Écoute, alors bon match et puis
merci.
À la prochaine.
Merci.
Ça marche. Allez, on se fait une petite pause musicale, quelques petites chansons et on reviendra avec, je suppose, un entretien avec un ou une joueuse. À voir, on verra ça tout à l'heure. D'ici là, c'est de la musique, c'est Arab Trap Music. Voilà.
Stop.